5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté.
L'économie sociale a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
C'est vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Et dans cette auberge espagnole, eh bien ce sera musical, culturel à 100% avec en fin d'émission, on aura au téléphone Christine Dumont du collectif Coa, Coa Jazz, qui a une actu chargée la semaine prochaine. On aura aux alentours de 13h ou 18h Gaspard Bébier Valérian pour la 4e édition des Rencontres des Arts Numériques, Électroniques et Médiatiques, représentant de l'association Udeis, qui présente donc Silence Vert. Et puis BT Argo est de passage à Montpellier. Leur premier album Who's Betty Argo est imminent. Et puis pour démarrer, eh bien, ça va être Emmanuel de Gouvello, bassiste et pilote du groupe Mezcal Jazz Unit. Ils sortent leur nouvel album Ici et Ailleurs et ont pas mal de concerts à suivre dans le département. On va tout de suite en écouter un extrait en attendant notre invité qui doit être perdu dans le tramway. Et c'est le titre qui ouvre cet album qui s'appelle Ici et Ailleurs.
Thank you.
Un extrait donc de l'album Ici et Ailleurs, le dernier album en date du Mezcal Jazz Unit, et c'est Emmanuel de Gouvello qui est avec nous. Bonjour. Alors cet album Ici et Ailleurs, un album autoproduit qu'on peut trouver sur mezcaljazzunit.com, en attendant de le trouver dans les bacs, le Dixit, le parcours du combattant de faire distribuer un disque.
Et oui, comme je le disais hors antenne, on était distribué par Mosaic Music qui est en liquidation judiciaire. Donc non seulement on n'est pas distribué alors qu'on avait une promesse de distribution, mais nos disques précédents sont bloqués pour l'instant à la frontière, comme on dit.
La frontière entre le réel et le virtuel. Bien le Mezcal Jazz Unit, c'est on va dire un groupe qui est bien connu ici en région. Depuis 86, c'est l'année de sa création à peu près, c'est ça?
C'est précisément l'année de sa création, ça fait 26 ans donc. D'existence. Ouais.
26 ans et que de chemin parcouru au sens propre comme au figuré, puisque la liste des pays ou des continents dans lesquels vous avez eu la chance de pouvoir aller jouer, elle est assez longue. Finalement, c'est presque un groupe de vétérans, j'ai envie de dire, aujourd'hui.
Ouais, n'exagérons pas, mais c'est vrai que c'est un peu la singularité de ce groupe par rapport à d'autres groupes de région, c'est que nous, dès 93, on est parti ailleurs. Mm-hmm. Et puis on a mordu à ça et on ne peut plus s'en passer.
Alors donc avec Christophe Azema, Jean-Marie Frédéric, Viviane Pérez, Pierre Diaz qui est invité sur quelques titres, Tekon Ukwa ou Chick Corée, des compositions qui dans le parcours du Mezcal Jazz Unit pour cet album diffèrent en quoi des autres? S'il fallait trouver une particularité à ce Ici et Ailleurs, quelle serait-elle?
Je sais pas trop quoi dire à ça. Disons que cet album-là, je voulais le faire parce qu'on a fait pas mal de créations avec des musiciens étrangers. Hein. Mm-hmm. Les trois derniers albums qu'on a fait, c'était un au Vietnam, un en Inde et un au Nigeria, toujours avec des musiciens là-bas. Donc c'était des créations mixtes. Hein. C'est-à-dire, moi j'ai composé une partie, et, en général le musicien invité en composait une autre. Et le dernier disque qu'on avait fait sous le nom Mezcal Jazz Unit, simple, et c'était Motai Baboon en 2005. Donc, j'avais besoin, moi, qu'il existe un nouveau disque, ne fût-ce que pour avoir une carte de visite qui représente vraiment. L'ancien étant vraiment obsolète par rapport à la musique qu'on jouait.
Qui représente vraiment, vraiment le groupe. Et puis un album enregistré à la Buisson, célèbre studio.
De Pernes-les-Fontaines, ouais.
Voilà. Ouais. Connu pour ses qualités diverses, et notamment pour l'acoustique, et puis l'espace, le cadre magnifique.
Oui, et surtout pour Gérard de Haro, qui est l'ingénieur du son, qui est mondialement reconnu comme un des grands, hein, et qui est d'une humilité qui force le respect. Et en plus, c'est vraiment un vieux compagnonnage avec eux, puisqu'on avait enregistré le premier disque H2 en 91 là-bas. Et à cette époque-là, ils montaient un petit label qui s'appelait Need Records, et ils nous avaient pris sur le label. Donc c'est un peu un retour aux sources. C'est un compagnonnage qui n'a jamais cessé parce qu'on a fait des mixages, des masterings là-bas tout au long des années.
Alors il y a plusieurs concerts à suivre là dans le département. Vous serez notamment au Jam ce 22 novembre, donc après-demain au Jam, et puis le lendemain à Joncelles, le 24 à Pézenas à la Gare du Nord, le 29 à Octon à l'Orange Bleu, j'imagine avant de partir au-delà.
Pour l'instant, on va pas partir au-delà. Là. On va plutôt faire l'inverse. On va faire venir en février Greyhawk Perkins, qui est un musicien indien Choctaw et Uma de la Nouvelle-Orléans, avec qui on a travaillé en mois de juin. Mmh. Avec qui on a commencé une création qui s'appelle 13 Moons, 13 lunes. Et on va la jouer à Villeneuve-les-Maglones, au théâtre Béranger de Frédol, qui a eu la curiosité très saine de nous programmer.
Et là c'est plus dans un univers, j'imagine, où le blues rentre.
Alors évidemment, Greyhawk Perkins, c'est un indien Uma et Choctaw de la Louisiane, donc qui défend une langue très particulière qui s'appelle le Mobilian, qui est une sorte d'espéranto qui avait cours à l'époque de l'occupation française, des colonies françaises, qui était un trade language qui servait pour le commerce entre les tribus indiennes du sud. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français ont adopté ce mobilien aussi pour travailler avec les Indiens au niveau du commerce, tout ça. Donc quand on est retourné là-bas, lui il a dit mais c'est un retour, les Français et les Indiens, il y a une histoire commune, on continue à écrire l'histoire.
Donc beaucoup de voyages pour le Mezcal Jazz Unit. Et puis avec tous ces albums réalisés, toutes ces créations, etc., on dit souvent que c'est difficile, surtout dans le milieu du jazz, d'arriver à se maintenir, etc. On a un petit peu le sentiment que la petite entreprise ne connaît pas la crise chez le Mezcal Jazz Unit, ou c'est qu'une vue de l'esprit?
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne deviendra jamais riche. Mais disons qu'on arrive à trouver les moyens de faire des projets intéressants. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on y trouve artistiquement et humainement quelque chose. Voilà. Et puis qu'on ne soit pas à perte.
Alors cet album, on peut y retrouver les titres Blue Curaçao, Yoko Lou, Lemurian Song, Elisa's Tiny Song, Chick Corea, Darbata, Tekon ou quoi. Ouais, ça fait un peu penser à c'est écrit un petit peu comme une langue asiatique. Et puis Bopenyang, d'où viennent tous ces titres, des voyages, j'imagine?
Ouais, Bopenyang, c'est on allait au Laos en octobre 2011 faire une création avec des musiciens laotiens à Vientiane. Et Bopenyang, c'est typique de la mentalité des Laotiens. Bopenyang, ça veut dire don't worry, c'est pas grave. Donc tu renverses un cycliste, il dit Bopenyang, tu marches sur le pied de quelqu'un, Bopenyang, y a pas de problème. Et c'est vraiment c'est ça, le peuple laotien, c'est Bopenyang.
Et puis on va se quitter avec Lemurian Song, une chanson à nos ancêtres, puisqu'il semblerait qu'on vienne plus des Lémuriens que des singes, allez savoir. Et on rappelle évidemment les quatre concerts à venir, à commencer par après-demain sur la scène du Jam à Montpellier. Le 23, je le rappelle, à la Villa Issiates à Joncelles dans l'Hérault toujours. Le 24, à la Gare du Nord de Pézenas, et le 29, à l'Orange Bleu à Octon. Emmanuel de Gouvello, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Divergence.
Avec plaisir.
Et puis on rappelle que l'album, en attendant qu'il soit dans les bacs, on le trouve sur le site du groupe Mezcal jazzunit.com. Merci beaucoup.
Au revoir.
La suite, vous l'aurez, jeudi sur la scène du Jam. Dans quelques instants, on sera avec le duo Betty Argo. Qui est Betty Argo? Who's Betty Argo? La réponse juste après cet extrait d'un album qui est là dans les studios de Divergence, qui sera dans tous les bacs très bientôt, promis.
Away from the start, from that letter that threw me all apart. 70 blocks away from my guts, I am running, blinding by the dust. 70 blocks away from my heart, you keep on squeezing, squeezing so hard. 70 blocks away from nothing at all, I keep on running, slow down the fall. Blocks away from my nest, all I have left is the beating in my chest. Can 70 blocks make me change my course? Cause I'm caught like a rat in a trap. 70 blocks away from the storm, from all I have known since I was born. 70 blocks away from fullness, I'm just an empty body running in the darkness. I'm running, my legs are burning, I'm running towards the end of it. And I'm running, I stop complaining, fucking pretending that I'm not scared of it. And I'm running, my legs are burning, I am running towards the end of it. And I'm running, I stop complaining. 70 blocks away from my rest, I believe that this is the end of my quest. 70 blocks away from all of you, my friends, take me further, keep the best, my love will never end.
Blocks.
If only I could stop time and find myself a place to hide.
70 blocks.
I'm still young, but I know this is my fate.
70 blocks.
I'm heading towards the end of it.
70 blocks.
But through my veins runs a beat that makes me running. My legs are burning, I'm running towards the end of it. And I'm running, I stop complaining, fucking pretending that I'm not scared of it. And I'm running, my legs are burning, I am running towards the end of it. And I'm running, I stop complaining. Seventy blocks away from the start, from that letter that threw me all apart. 70 blocks away from my nest, all I have left is the beating in my chest. 70 blocks away from all of you, my friends, take me further, keep the best, my love will never end. 70 blocks away from my rest, I believe that this is the end of my quest.
70 Blocks, c'est le single de l'album Who's Betty Argo, et pour en parler avec nous, eh bien, ils sont là tous les deux. J'ai nommé Léna et Arnaud, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Léna, que l'on remercie doublement car malgré une angine virulente, elle a quand même réussi à venir jusque dans nos studios. On t'avait reçu il y a quelques temps déjà pour un tout premier projet acoustique qui s'appelait LOL.
Oui, ouais, c'était il y a quelques années. Ouais.
C'était il y a quelques années, et ben comme quoi on a de la suite dans les idées sur Divergence. Et ben aujourd'hui, on est là pour un projet peut-être un petit peu plus abouti, un petit peu plus mûr, qui s'appelle Betty Argo, du nom d'une Suédoise qui, dans les années 50, offrait des balades en luge pour redonner le moral aux gens. Il n'y a vraiment qu'en Suède qu'il y a des gens comme ça qui vous font balader en luge. Est-ce que ça s'est prouvé efficace?
Bah écoute, je sais pas. En fait, moi j'ai trouvé ça. C'était un vieil article qu'on a trouvé chez mon grand-père. Ma mère est suédoise, donc voilà, c'est un article. On n'a jamais retrouvé réellement la trace de Betty Argo, mais bon, on a trouvé que voilà, l'histoire était sympa et puis l'esprit collait bien à notre musique. Donc voilà, Betty Argo, c'était un bel hommage à la fois à la Suède et aux messages qu'on voulait faire passer.
Mmh. Alors les messages, c'est toi qui les écris pour, au niveau des textes et qui chante. Arnaud bien, s'occupe, on va dire, de, un petit peu de tout le reste. Ouais. Hein, même si ton instrument, c'est la guitare, on va dire, bah, tu amènes un petit peu tout, tout ce qui va avec. Mmh. Depuis 2009, date de formation du projet, bah, il ne s'est pas passé énormément, puisqu'on n'est qu'en 2012. Nonobstant, vous avez fait plein de rencontres, ce qui vous a permis bien de, d'aller enregistrer ce studio au pays des moules et des frites, et puis de faire plein de rencontres entre temps, de jouer aussi un petit peu à l'étranger avec l'Alliance française. Donc finalement, deux années super bien remplies.
Ouais, bien. On a enregistré l'album en Belgique au Jet Studio avec avec Lucas Chauvière, qui avait bossé avec M et plein d'artistes. Mmh. Et donc très content, c'est un super son. Et après, on a fait l'Alliance française, Inde et Népal, 10 dates. Voilà, très bonne expérience. Les Indiens étaient sympas, ont découvert le rock, parce que mine de rien.
Il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, il n'y avait pas beaucoup de rock, et d'avoir l'énergie rock sur scène, ils étaient bien contents, ça allait changer de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre, et de la musique traditionnelle, quoi.
Et vous le vivez comment, comme un petit peu un rêve éveillé, parce qu'en deux ans, c'est quand même bien, quoi, de pouvoir enregistrer avec un type assez chevronné.
Ouais.
Pour un jeune groupe, il vous a pas pris de haut, tout s'est bien passé, c'était
non.
C'était bon enfant.
non, c'était parfait. Il est très sympa. Justement, il bossait beaucoup sur Paris, il s'est exilé en Belgique, à Bruxelles, pour être un peu plus cool. Et donc on a enregistré ça sereinement, dans une très bonne ambiance, et voilà, très sympa. Et le studio avait du très très bon matos, donc c'est pour ça qu'on a envie de le faire là-bas. Mmh. Et voilà, très bon, très bien.
Ouais, c'est un des plus vieux studios de Bruxelles, en fait. Donc du coup, il y a vraiment des vieux synthés, des vieux orgues et tout. Il y avait vraiment matière à bien s'amuser, quoi. Enfin, c'était...
Et entre votre proposition initiale et puis ce qui est sorti de l'album, est-ce que justement il vous a apporté des choses qui manquaient, ou etc.
Bah, il a pas mal apporté sa patte, parce qu'on avait les compos tels qu'on les avait définis, et du coup il y a eu des petites évolutions sur les morceaux qu'il nous a suggéré. On a bossé ensemble, et donc
C'est aussi le rôle du gars qui tient le studio, c'est d'avoir un côté un peu producteur, un peu d'apporter les.
Il a eu un côté réel, carrément.
Mmh. Ouais.
Donc c'était très bien. Ça nous a apporté des fins de chansons, des petits trucs sur des refrains, sur des ambiances qu'on n'aurait pas pensé. Enfin, très bien. Mmh. Vraiment bien.
Alors, l'album, on peut d'ores et déjà se le procurer sur iTunes, mais j'imagine que sous sa forme matérielle, est-ce que vous allez le distribuer? Comment ça va se passer?
L'album, pour l'instant, il n'est pas encore sur iTunes. Il n'y a que le morceau qu'on vient d'entendre.
Ah oui, c'est le single. Ouais.
Voilà.
Ah,
et il sortira probablement au printemps. Voilà, donc pour l'instant, il y a 70 blocks. Et puis sinon, on a 2-3 morceaux qu'on a mis en écoute sur notre site. Voilà, après, vous pouvez l'écouter à la radio. Et puis après, il faut attendre le printemps.
Voilà, c'est au printemps qui sera probablement distribué.
Oui.
Ouais.
Mmh.
Vous savez déjà par qui
Non, justement, on cherche.
Ouais, on y travaille en ce moment.
On y travaille.
Ah, on évoquait juste avant la faillite de Mosaic Music. Donc faites gaffe, vous ne faites pas distribuer par n'importe qui. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
On fera gaffe.
En ce moment, c'est un petit peu tendu. Alors, il n'y a pas d'actu réellement concert, d'autant que vous aussi, tu disais, le gars du studio s'était exilé à Paris. Bah, vous, vous êtes aussi exilé à Paris.
Ouais.
Ce n'est pas pour payer moins d'impôts, parce que j'imagine que vous n'en payez pas.
Non, la vie est plus chère, en fait.
Mais c'est pour aussi avoir plus de scènes sur lesquels jouer,
plus de scènes, plus de musiciens, plus de,
parce qu'actuellement, quand vous produisez, vous avez des musiciens additionnels qui vous rejoignent, ou comment ça se passe?
Samuel Strouk qui est un montpellierain, et Jérémy Pontier qui fait de la batterie, et voilà, on est quatre: basse, batterie, guitare et chant, les nains.
Et voilà. Alors, que dire de plus, si ce n'est de rester au courant en allant sur bettyargo.com, B-E-T-Y-Y-A-R-G-O, avec un seul Y, je ne sais pas pourquoi j'ai dit deux fois Y, enfin c'est comme ça, c'est mardi. Et puis on retrouve évidemment toutes les infos, une petite interview, une petite bio, de la musique, vidéo, etc. etc. Et j'imagine que prochainement vous organiserez peut-être une petite tournée après le printemps, après la sortie du disque.
Pour promouvoir l'album. Ouais. Donc,
je pense que
ça
vous pourrez nous retrouver probablement au printemps à Victoire 2.
Ah bah voilà.
On va faire un petit concert dans le sud, avec grand plaisir à Montpellier. Et puis sinon là, sur Paris, prochainement aussi, on va faire des concerts. On va probablement avoir une date régulière, une fois par mois, dans un lieu. Voilà, on vous tiendra au courant, de toute façon, tout sera marqué sur le site.
Parfait. Je salue Simon Morin qui vient d'arriver dans les studios avec ses belles lunettes. On va se quitter avec un autre extrait de cet album que l'on peut écouter en exclusivité sur Divergence FM en attendant qu'il soit dans les bacs. On vous souhaite bon vent et puis bon retour à Paris. Ouais.
Merci.
Merci.
Salut.
My secrets, and I hold you tight. I'm afraid.
Et voilà, c'est Betty Argot. Et puis à présent, c'est Gaspard Bébier-Valérian qui est avec nous. Bonjour Gaspard.
Bonjour Gilles.
Alors on se retrouve assez régulièrement derrière ce micro pour parler de ce qui se passe chez vous au Vigan, où est basé Oudeis, un collectif qui œuvre dans les arts numériques, la transdisciplinarité. Tout ça dans l'arrière-pays, qui le mérite bien. Oui. Et ça se passe plutôt bien depuis 4 ans déjà.
Oui, déjà depuis 4 ans, je me souviens encore du premier rendez-vous qu'on avait fait ici avec toi, en régie à ce moment-là, et Vincent Cavaroc, c'était les tout débuts, donc ça avance. Ça
voilà,
avance.
Qui lui aussi est parti à Paris,
également.
À la Gaîté Lyrique, pour ne pas le citer. Et donc, on est ensemble pour parler de Silence Vert. Alors jusqu'ici, tout allait bien, parce que c'était jusqu'ici, tout va bien. Et puis là, on change un petit peu de concept vers cet intitulé Silence Vert. Que se cache-t-il derrière cet intitulé ?
C'est la nouvelle édition des rencontres des arts numériques, électroniques et médiatiques. Donc ça fait maintenant 4 ans qu'on renouvelle ce temps fort en décembre, lorsqu'il fait froid et gris chez nous dans les Cévennes. Mais on y tient. Et chaque année, en fait, effectivement, il y a une thématique. L'année dernière, c'était jusqu'ici, tout va bien. Cette année, silence vert. Donc cette année, on a souhaité travailler, réfléchir sur une dimension particulière qui nous est assez importante. Et précisément, justement, au vu du contexte actuel, c'est la question environnementale. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire, art, une nouvelle technologie, comment ça peut s'associer, traiter de la question de l'environnement, mais de façon plus étendue, tout ce qui va vers l'environnement ou qui part de l'environnement. Donc la notion notamment d'énergie intervient, la notion d'écologie intervient, la notion de territoire intervient également. Et c'est parti, peut-être anecdotique de le dire comme ça, mais c'est parti du constat qui se faisait sur le besoin de ressources énergétiques et que sur notre territoire, il y avait un véritable enjeu qui était celui du gaz de schiste et qui est pour nous un véritable scénario catastrophe qui pose de vraies problématiques. Et ces problématiques, en fait, elles découlent effectivement du besoin de trouver de nouveaux moyens énergétiques et qui, en soi, structurellement, en fait, elles questionnent notre société. C'est-à-dire, pourquoi on a des besoins énergétiques, de tels besoins énergétiques ? Pourquoi a-t-on besoin de prospecter de nouvelles formes d'énergie ? C'est parce qu'on est énergivore. Et à partir de ça, effectivement, ça nous questionne, nous, sur notre mode de vie aussi. Donc, silence vert part du principe, à un moment, de traiter la question des écologies, non pas d'une seule écologie, l'écologie environnementale, mais aussi d'une écologie politique et d'une écologie sociale. Ça me semblait fondamental pour ne pas tomber dans une forme de poncif de la relation entre l'art et la nature ou de choses moins entendues, comme le land art, qu'on respecte beaucoup, mais on a quand même une couleur particulière avec Oudeis, qui est celle de justement des arts médiatiques, des arts comme médias tactiques qui interviennent dans le champ quotidien, dans le champ politique, et ça, c'est extrêmement important. Donc plutôt de partir sur une manifestation un petit peu entendue, sur des formes d'art un petit peu interactives, sur la nature, les plantes, une espèce de vision néo-hippie comme ce qu'on voit dans certaines formes d'art numérique, on se place un petit peu effectivement en contrepoint de ceci et on propose effectivement une manifestation assez complète qui questionne vraiment de façon, je dirais, transversale, pour reprendre ton mot, cette notion d'écologie globale.
Voilà, avec un premier rendez-vous qui met directement les pieds dans le plat ou dans le sillon, puisque ce sera un documentaire qui sera projeté, le film Marina Leda, un village en utopie, un film de Sophie Bowles. Il y aura aussi d'autres vidéos d'artistes dont Hul Brown ou Joao Tabara. Là, ce village d'Andalousie développe depuis les premières élections libres de 79 un système social et politique un peu à contre-courant du modèle prédominant. Des habitants qui ont obtenu par des actions incessantes 1200 hectares qu'ils exploitent aujourd'hui en coopérative. Le film de Sophie Bowles explore la complexité de cette expérience collective. D'ailleurs, il y en a d'autres, des expériences un petit peu comme ça. On connaît aussi en France, il y a un bled, je ne sais plus le nom, mais où il y a des geeks qui sont venus se mettre au vert, entre guillemets. Donc, eux, ils ont appris à travailler la terre et en échange, ils apprennent aux paysans locaux à faire un petit peu d'informatique, etc. Et donc là, il y a un vrai mouvement. Et là, c'est jeudi 22 novembre, donc c'est en prélude à cette quatrième édition du festival. C'est à partir de 18h30 au cinéma L'Arc-en-Ciel, 7 rue Émile Planchon à Ganges. Donc oui, c'était un bon choix, ça tombait tout à fait dans la thématique.
Oui, tout à fait. En fait, on est complètement relié à ces questions-là. C'est vrai que d'année en année, on essaye d'approfondir et d'aller un petit peu plus loin, même si l'année dernière, la notion écologique n'était pas directement lisible comme telle. Aujourd'hui, on y vient parce qu'il y a effectivement ces enjeux énergétiques qui apparaissent de façon flagrante. Néanmoins, c'est ce que je disais au début, c'est que finalement, tout se relie à ces questions d'énergie, d'écologie. Effectivement, il y a des initiatives tout à fait singulières qui se font. Je pensais à Pas de Loup, qui se trouve dans les Alpes-Maritimes, qui est une forme d'initiative durant 3 semaines, 1 mois, qui rassemble des hackers, des geeks, des agriculteurs, et qui travaille sur les questions d'autonomie énergétique, qui travaille sur des principes de moteur Pantone, sur les principes de solaire, qui n'est plus vraiment dans un cloisonnement qui est celui du champ de l'art, qui est vraiment dans une expérience de vie. Alors après, quand même, la particularité, c'est que moi, lorsque j'ai entendu parler de Pas de Loup, j'ai trouvé ça, dans les Alpes-Maritimes, j'ai trouvé ça assez exemplaire et brillant. La problématique, en fait, pour nous, au Vigan, c'est qu'on a quand même une culture, on a une histoire, en fait, qui est reliée à celle de l'art et du fait de montrer de l'art. Donc, c'est presque quelque chose qui, pour nous, joue contre nos réflexes, c'est-à-dire qu'on voudrait créer une expérience de vie presque émancipatoire ou une forme d'expérience collective de vie, mais on est quand même au départ sur le principe d'une exposition, d'une manifestation, et on n'a pas forcément les mêmes méthodologies ou les mêmes publics que ceux que l'on voit dans des expériences collectives, autonomistes ou communautaires. Mmh. Donc là, c'est vraiment traité par le prisme de l'art, par des expériences artistiques, traiter ces questions-là.
Alors des questions qui seront aussi traitées à travers toute une série d'expositions, d'installations, d'œuvres interactives avec Art Act, Christophe Hague, Martin Rimori, Francisca Windisch, Ludwig Zeller, Julian Oliver, Sequence, Richard Vigen. Et tout ça, c'est du 1er au 15 décembre 2012. C'est au château d'Assas, non pas à Assas, mais au château d'Assas au Vigan, 11 rue des Barry. Et c'est du lundi au vendredi, 10h30, 12h30, 14h, 18h. Le samedi, 10h30, 12h, fermé le dimanche. Et le vernissage, c'est très bientôt, c'est le 30 novembre, ce sera à 18h30.
Oui, tout à fait.
Donc là, beaucoup d'artistes, beaucoup d'installations, beaucoup de choses à voir pendant 2 semaines.
Bah oui, ce qui est assez étonnant et drôle dans l'histoire, ce qui est assez cocasse, c'est qu'on m'a rappelé il y a moins d'un mois qu'on s'était promis de faire moins gros que ce qu'on a fait l'année dernière. Et je me rends compte qu'on a mis les pieds dans le plat, on fait encore plus gros. Donc on espère évidemment que ce sera réussi. A priori, tous les éléments sont rassemblés pour que ce soit réussi. Après, effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est ce que je dois peut-être préciser pour compléter par rapport à ta question relative aux éditions précédentes, c'est qu'on était quand même dans l'année dernière, on était dans une vision, la thématique c'était jusqu'ici tout va bien, on était dans le constat qui est aujourd'hui dans des sociétés catastrophistes. On est toujours en train d'être alarmiste et de dire attention, la crise arrive, la crise arrive, la crise arrive. Et en fait, aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte que non, la crise, on est en plein dedans. Et il faut cesser d'être dans un climat alarmiste, mais il faut peut-être plutôt maintenant prendre les choses à bras le corps. Donc Silence Vert intervient aussi dans ce constat qu'il faut prendre les choses à bras le corps, et plutôt qu'à être finalement dans une forme de pressentiment ou d'inquiétude, il faut aller au-delà. Il faut tout simplement maintenant affronter et envisager des outils, des moyens à travers l'art pouvant répondre à la situation de crise. C'est-à-dire pas se préparer à la crise. Non, on y est, on l'a passé, c'est un petit peu l'après-coup. C'est aussi pour ça qu'on se réfère à Soleil Vert, Silence Vert, Soleil Vert, à ce film de science-fiction.
Tout à fait. Où on mangeait des cadavres sous forme de petites barres vertes.
À toute contrainte, il y a une réponse et une solution. C'est ça.
Alors, tout ce qu'on pourra voir au château d'Assas, ce bric-à-brac d'installations interactives, de microscopes, de bioréacteurs et de cultures de spiruline, eh bien, on pourra aussi, pendant ce temps-là, pendant la même période, à savoir du 1er au 15 décembre, aller à la chapelle de la Condamine, rue du Mûrier au Vigan, pour voir tout ce qui concerne la programmation vidéo. Là aussi, avec pas mal de monde, Jennifer Alliora, Guillermo Calzadilla, Oulu Brown, Johanna Hadji Thomas et Khalil Joraig. Voilà, Joraig, Raphaël Griset, Marcus Kaiser, Joao Tabara ou Pedro Reyes. Donc là, il s'agira de programmation vidéo, ce qui veut tout et rien dire.
Oui, complètement. C'est juste une façon déterminée de différencier un peu les installations, objets qui seront sur l'exposition au château d'Assas, d'une forme d'exposition sensiblement plus orientée sur des objets vidéo. Alors ce qui est intéressant cette année, et c'est une nouveauté, c'est que nous avons confié aussi cette programmation vidéo. Il y a un commissariat général qui s'est exercé, qui est l'équipe d'Oudéis, et pour la chapelle de la Condamine, pour cette programmation vidéo, on a fait appel à Manuel Fadat, connu également des divergences puisqu'il a travaillé pendant des années, il a cofondé et tenu la revue Los Flamencos Nocomen, théoricien aussi et commissaire d'exposition, assez familier justement des questions entre art et politique. Donc là on a une très belle programmation vidéo qui vient justement en complément de ce qui a été, de ce qui sera présenté sur le château d'Assas, moins effectivement dans l'objet, dans le design, dans l'installation, mais beaucoup plus dans la vidéo avec de très très bons artistes à un niveau international et des choses qu'on connaît qui sont vraiment indéniablement très stimulantes. Ça, c'est vraiment pour nous un véritable plaisir d'avoir aussi cette, c'est le prolongement de l'exposition. C'est pas effectivement un téléviseur qui est mis dans une autre pièce. Non, là c'est vraiment un travail d'exposition qui est fait, mais qu'on a différencié comme programmation vidéo pour juste faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre d'installation et de l'objet vidéo.
Manuel Fadat, historien de l'art, qui sera aussi avec Pascal Nicolas, Lestrade, Alessandro Ludovico, Annie Abrams, les artistes d'Art Act ou encore Ruth Catlow, qui fera partie d'une table ronde qui aura lieu le samedi 8 à partir de 18h, une table ronde autour de, on va dire, du thème de l'année et puis aussi avec pour but d'interagir avec le public, peut-être pour aller au-delà de ce qu'on peut voir et ressentir, etc.
Alors ça, c'est une vraie nouveauté pour nous et on est vraiment ravis aussi de cette évolution. Ça faisait des années qu'on voulait organiser une table ronde avec des théoriciens, des acteurs clés sur le champ des arts numériques, électroniques et médiatiques, hein, on va le dire comme ça, c'est-à-dire des théoriciens, des artistes, des éditeurs. Et là, on a rassemblé quand même effectivement un ensemble d'acteurs qui sont pour nous tout simplement une forme d'équipe rêvée, notamment avec Alessandro Ludovico, qui est quand même l'éditeur et le créateur de la revue New World. New World, qui est une revue internationale, qui est l'équivalent du MCD, spécialisée sur les arts numériques. Donc on arrive à le faire venir du bout de l'Italie, on est très content de ça. Évidemment, Annie Abrams, qui est une artiste connue.
La locale de l'étape.
Exactement. Voilà. Mais pour nous, fondamentale également, parce qu'elle a vraiment un rôle sur la question justement de l'art et de la relation à la communication. Je pense notamment aussi à tout son travail sur, qui s'appelle Training for a Better World, s'entraîner pour un monde meilleur. Donc on, effectivement, on est sur des problématiques assez proches et sur la question de la collaboration, évidemment, tout ça, ça se joint. Ou bien également Ruth Catlow, alors je ne prononce pas très bien évidemment, mais Ruth Catlow qui est la directrice et artiste de la directrice de Further Field, qui est un centre d'art spécialisé sur les arts numériques associés à l'environnement et ce qui se situe à Londres. Donc rassembler évidemment toutes ces personnes, plus Nicolas Lestrade, Manuel Fadat, Art Act, c'est un vrai plaisir parce que ça permet évidemment d'aller plus loin encore que la vision de l'exposition, mais ça permet aussi de produire de la ressource. Je précise ça parce qu'on n'est pas seulement dans un événement qui va durer 2 semaines, on est aussi dans un événement qui dure plus longtemps, notamment avec la production de textes, de traductions, la captation de cette table ronde, ou des actes de cette table ronde qui seront ensuite condensés dans une publication. Donc dans un sens, pour nous, c'est important, c'est aussi prolonger le temps de l'exposition, le temps de la manifestation, et aussi laisser une trace sous l'objet imprimé, virtuel, objet virtuel ou livre imprimé, hein, mais en tout cas laisser une trace et donner des ressources pour aider justement les publics ou tout simplement assurer une pérennité à un certain nombre de pensées, de réflexions de fond sur comment les arts numériques se relient et infléchissent aussi, peut-être, pourquoi pas, notre quotidien. Mmh. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, c'est presque peut-être une ambition démesurée, mais la question, c'est que vraiment la question de l'art, à un moment, infléchit et peut infléchir le quotidien. Et ça me semble extrêmement aujourd'hui lisible et clair sur l'action des nouvelles technologies dans l'art, parce qu'on se rend compte que ça peut s'associer au design, on se rend compte que ça peut complètement être une forme de nouvelle forme de réflexion sur notre avenir. Je pense notamment à un architecte designer d'origine mongole qui a conçu une forme de prototype de yourte volante qui s'envole grâce à l'hélium et qui, avec un système de structure, avec des matériaux tout à fait d'actualité, on serait sur une maison de 200 mètres carrés qui s'envolerait, qui se déplacerait. Donc, toujours une question du nomadisme, mais avec des technologies actuelles, de la domotique. Et ça, c'est effectivement une réflexion qu'on pourrait être amené à voir se concrétiser, parce que ce n'est pas juste finalement une projection d'un architecte, c'est quelque chose de très concret qui pourrait avoir une réalité, notamment sur certains peuples, ou en tout cas certaines régions où il n'y a pas beaucoup de population, d'un coup d'avoir comme ça une transformation de l'habitat rendu accessible grâce aux technologies, mais au départ une forme d'idée qui est presque on a l'impression de tirer d'un livre de science-fiction ou d'un artiste, un projet d'artiste.
Justement, puis ça pourrait aider aussi à mieux comprendre le nomadisme qui n'a pas très haut la cote en ce moment, que ce soit du côté de nos amis roms ou tout simplement du côté de ces fameuses constructions temporaires qu'il fallait détruire un peu partout, etc., pour des raisons aussi stupides
que celle de mettre les fromages de chèvre au frigo, selon la Commission européenne. Enfin bon, bref, on vient d'un monde, c'est vraiment n'importe quoi. Cerise sur le gâteau de ce silence vert, ce sera la dernière journée, le samedi 15 décembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, avec un atelier Makey Makey. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un kit d'invention innovant et simplissime développé par deux anciens étudiants du MIT Media Lab, un périphérique d'interfaçage corps et objet qui permet de développer un lot infini d'installations et dispositifs interactifs comme un piano banane, un escalier solaire, une manette de jeu faite de pâte à modeler. Voilà, c'est l'univers Makey Makey qui refermera cette quatrième édition des rencontres des arts numériques, électroniques et médiatiques.
Oui, alors là, c'est justement dans la question de la transversalité et de la diversité des publics. Bah pour nous, c'est toujours important aussi de pouvoir toucher les jeunes publics, aussi pour induire chez eux une forme de réflexion critique sur ces usages des nouvelles technologies. Donc Makey Makey, pour moi, c'est une forme de révolution, c'est l'au-delà de l'Arduino. L'Arduino déjà a été...
On en parle pas mal assez régulièrement, ouais, c'est un microcontrôleur qui permet de faire plein de choses libres et bien.
Tout à fait. Ben là, c'est pareil, si ce n'est qu'on est arrivé à un degré de simplification et d'utilisation qui, pour moi, est vraiment très bien pensé, très judicieux, où dans un sens, c'est vraiment inciter chacun à réfléchir son environnement comme un environnement de création et d'interaction. Et grâce à Makey Makey, on est non plus sur une question de conception antérieure à la création, c'est-à-dire on va faire réfléchir à un phasage avant d'avoir la création validée, on va être vraiment plutôt d'abord dans comment je vais réagir avec mon environnement, quels objets je vais utiliser, comment mon corps va réagir, et là on est vraiment du coup dans une réflexion qui pour moi me semble plus fondamentale, qui est celle de l'œuvre, plutôt que du dispositif ou du moyen. Et je trouve que ces Américains, ils avaient quand même déjà aussi des antécédents, parce que c'est eux qui ont développé Scratch, au MIT, qui est un logiciel de programmation modulaire pour les enfants. Et là, ils sont arrivés à un degré, je trouve, de sophistication et d'intelligence en termes d'ergonomie et même en termes d'ouverture de création qui est vraiment poussée. Donc là, Makey Makey, on peut faire des sessions juste de 2 heures et les enfants, ils repartent avec ça, avec un crayon à papier. Le crayon à papier est conducteur, donc tracer un trait avec du crayon à papier, c'est conducteur, ça peut devenir un objet. C'est-à-dire le crayon à papier, n'importe où dans la rue, connecté avec des câbles et avec un crayon à papier, tac, ça devient un objet. Le ketchup, la pâte à modeler, les fruits, n'importe quoi. Tout ce qui est conducteur devient un objet susceptible d'être un objet d'interaction. Mmh. Ça ouvre un univers assez, assez vaste.
Et voilà, et donc on a énuméré toutes les excellentes raisons de se rendre du 1er au 15 décembre au Vigan pour ce silence vert, rencontre des arts numériques, électroniques et médiatiques. Gaspard, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à Montpellier pour nous présenter tout ça. On n'aura pas le temps d'écouter la petite musique Makey Makey car le temps tourne. On va tout de suite écouter un extrait du collectif Koa dont on aura une représentante au téléphone dans quelques petits instants pour détailler leur actu super chargée de la semaine prochaine. Merci Gaspard.
Merci Gilles. Thank you.
et c'est le collectif Koa qu'on est en train d'écouter actuellement. Le collectif Koa, qui est un collectif de musique jazz, musique improvisée, qui est assez actif et même très très actif depuis quelques années à Montpellier et qui a même, figurez-vous, une chargée de production qui n'est autre que Christine Dumont, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors je le disais, le collectif a une actu assez chargée la semaine prochaine. Il y aura déjà une rencontre professionnelle à la Friche de Mimi, ce sera mardi à 11h, mais c'est sur invite et tout, donc on va pas forcément encourager nos auditeurs à essayer de s'y immiscer. Par contre, vous serez dans la programmation des Jeudis en Musique la semaine prochaine chez notre bon ami Navarro de la Fac de Lettres.
Exactement. Voilà, donc en fait, mardi, effectivement, entre 11h et 14h, on propose un brunch musical, puisque nous allons fêter nos 5 ans d'existence. Mmh. Et donc, on propose une petite collation en musique pour nos adhérents professionnels et amis qui gravitent autour du collectif. Mmh.
Voilà, il y aura Jazz en l'air et puis je crois Réseau en scène qui ont relayé l'information. Et puis donc jeudi en musique, je crois que ce sont des concerts à la Maison des étudiants de la Fac de Lettres qui ont lieu en journée.
Oui, tout à fait, à partir de 12h15. Et alors là, c'est la sortie de création du grand ensemble Koa, qui est le groupe fondateur et fédérateur du collectif, qui s'est monté vraiment donc au tout début de l'aventure en 2007. Et donc là, ils ont travaillé sur plusieurs sites en résidence, notamment donc à Mende, au Jeudi en Musique, donc à la salle Jean Moulin, et à Gignac. Il y a eu un premier concert de cette création qui s'appelle Aïmcha vendredi dernier à Gignac. Et là, la première à Montpellier, donc se fait tout naturellement au Jeudi en Musique qui nous a accueillis en résidence.
Voilà. Et puis il y a aussi l'album qui est sorti, qui va sortir.
C'est ça, qui est sorti, ça y est, on l'a enfin reçu. Il est distribué sur le plan national chez Muséa. Et voilà, et donc c'est la première création du grand ensemble qui s'est montée en 2010. Et donc voilà, en 2011, ce répertoire a été enregistré au studio de la Buissonne à Pernes-les-Fontaines, qui ont fait un super travail d'ailleurs. Et donc il est tout frais, tout chaud. Il est disponible aussi sur simple demande par mail au collectif Koa. Il coûte 15 euros.
Voilà, collectif Koa en un seul mot, .free.fr, c'est l'adresse du site, le studio de la Buissonne qu'on évoquait avec le Mezcal Jazz Unit il n'y a pas une heure, qui est décidément à l'honneur. Bah, Christine, merci pour toutes ces infos. On rappelle que le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain à la Maison des étudiants à la Fac de Lettres. Rappelle-nous l'heure du concert.
Midi 15,
c'est parfait. C'est... Allez-y avec un sandwich, vous serez pas déçus. Merci beaucoup. On se quitte avec un autre extrait de cet album qui est disponible. Bah voilà, ça y est, il est disponible. Merci beaucoup.
Merci à toi. Bonne
Et c'est sur ces notes rythmées et syncopées que se referme cette auberge espagnole du mardi 20 novembre 2012. Gilles Gouget vous remercie. Je remercie Bruno Bertrand et Gérard Viol qui ont réalisé cette émission. L'auberge espagnole est une production Divergence FM qui vous souhaite une belle après-midi à l'écoute ou pas de ces programmes magiques.